Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, Arnaud Laporte. Bonsoir à toutes et à tous. On commence par un petit codicille à la revue de presse de vendredi dernier à propos de la polémique sur l'entrée ou non dans le domaine public du journal d'Anne Frank au 1er janvier de cette année, à quelques jours de la date fatidique, écrivait le 30 décembre Erwan Cario dans Libération. Le fonds Anne Frank, bénéficiaire et gestionnaire des droits de l'œuvre, a réagi. La députée du Calvados, Isabelle Attard, et le maître de conférences et blogueur, Olivier Ertscheid, qui avait déclaré vouloir mettre en ligne le texte, ont reçu chacun un courrier. Olivier Ertscheid a publié sur son site les injonctions auxquelles il devait se conformer dans les 5 jours, renoncer à la mise en ligne, expliquer sur son blog qu'il n'avait pas bien compris les tenants et les aboutissants, informer les médias avec qui il a été en contact du fait qu'il avait reconsidéré son geste. Il devait s'acquitter de 1000 euros par jour et par injonction non suivie. C'est une approche d'intimidation à l'anglo-saxonne, expliquait Ertscheid. Il ne voulait pas devenir un martyr de la cause, mais se disait prêt à assumer et à mettre le texte en ligne. Isabelle Attard avait un discours tout aussi résolu. « Je le mettrai bien en ligne dans les premiers jours de janvier. » Olivier Ertscheid pointait un autre symbole. Le 1er janvier 2016, l'histoire fait que plein d'œuvres antisémites, dont Mein Kampf, entrent elles aussi dans le domaine public. Et comme promis, écrit 3 jours plus tard Erwan Cario dans le même Libération, la députée et le maître de conférence ont mis en ligne le texte malgré l'avis et les menaces du fonds Anne Frank. Jusqu'à preuve du contraire, le journal d'Anne Frank, dans sa version originale en néerlandais, est aujourd'hui dans le domaine public. La suite de l'affaire se passera probablement devant un juge qui devra statuer sur la validité des arguments du fonds, car ceux du camp d'en face ont le mérite de relever de l'évidence. Anne Frank est morte il y a 70 ans, en 1945, dans le camp de concentration de Bergen-Belsen, et son œuvre appartient aujourd'hui à l'humanité entière. En attendant, c'est un autre texte lié à la Seconde Guerre mondiale qui s'est retrouvé dans les prétoires. Le 20 novembre, rappelle Macha Seri dans Le Monde, soit une semaine après les attentats de Paris et Saint-Denis, le centre Georges Pompidou dévoilait une bâche monumentale sur sa façade reproduisant le célèbre vers de Paul Éluard, « Liberté, j'écris ton nom », illustré par le peintre Fernand Léger en 1953. Ce poème « Liberté », écrit en 1942, publié dans le recueil « Le rendez-vous allemand », paru aux éditions de Minuit en 1945, est un texte iconique, récité par des générations d'élèves et déclamé lors des moments forts de la vie de la nation. Un monument, en somme, devenu aujourd'hui l'objet d'un litige que la justice va devoir trancher. Le 16 décembre, une audience opposée, en effet, au tribunal de grande instance de Paris, la maison d'édition historique du poète et les ayants droit d'Éluard, au producteur d'un film, Maps to the Stars, une violente critique du milieu du cinéma hollywoodien, ce long métrage du réalisateur canadien David Cronenberg fut projeté au Festival de Cannes en 2014 et son actrice principale, l'américaine Julianne Moore, récompensée par le prix d'interprétation féminine. Objet du litige, 61 vers déclamés tel un leitmotiv par divers personnages dans un total de 9 scènes. Au Canada, le poème est tombé dans le domaine public, tel n'est pas encore le cas en France où le droit d'auteur s'exerce pendant 70 ans après la mort de l'artiste. Paul Éluard est mort en 1952. C'est en découvrant la bande-annonce du film peu avant sa sortie en salle que la famille a recensé une citation de 6 vers pour laquelle elle a adressé une première facture de 2000 euros suivie d'une deuxième d'un montant identique pour les mêmes vers dans le film lui-même, règlement acquitté par le producteur la veille de la projection à Cannes. Pour la société Map Stars, le contrat a été conclu et la question réglée. Elle a été relancée par le visionnage du film, ampleur des emprunts, inexactitude de la traduction en version française, comme dans les sous-titres, le vers « sur le sable, sur la neige » devenant « sur le sable de neige », de simples coquilles, estime la défense, à quoi s'ajoutait l'absence de copyright au générique mentionné depuis. La famille du poète a donc attaqué pour atteindre des droits de représentation, de reproduction et d'adaptation audiovisuelle. Les descendants d'Éluard, la fille que celui-ci a eue avec Gala, aujourd'hui âgée de 98 ans, et ses 3 enfants ne sont pas réputés pour être procéduriers. On n'interdit jamais rien, sauf si c'est scandaleux, explique Claire Sarty, petite fille du poète. Ce ne sont pas des caricatures d'ayant droit qui battent monnaie, a martelé leur avocate, pour qui exiger seulement un euro symbolique reviendrait à cautionner des pratiques bafouant le droit d'auteur. À titre d'exemple, elle réclame donc 250 000 euros, chiffre calculé sur les entrées en salle, les ventes du DVD et le retentissement international du film grâce à sa sélection à Cannes. Outre le différend financier, le préjudice serait surtout moral, précise la journaliste du Monde. Pour l'avocate de l'accusation, Claire Simonin, le sens de liberté serait dénaturé par le film véhiculant un message de mort. Il manque de lumière, d'espoir et de l'esprit d'Éluard. Il se clôt en effet par le suicide de 2 adolescents, frères et sœurs, incestueux comme leurs parents, après une ultime récitation. Ici, la liberté devient la mort, expliquait d'ailleurs David Cronenberg dans le dossier de presse du film. Pour la partie adverse, l'argument de l'altération du sens ne tient pas. Obtenir la liberté en se donnant la mort peut être l'une des interprétations du poème, a-t-elle argué, en se référant au 19e quatrain sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Selon les avocats de la défense, Paul Éluard ne voulait pas que son poème soit uniquement étudié à l'école dans un contexte positif et conformiste, rappelant son adhésion au mouvement dada puis surréaliste. Verdict le 11 février.